RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC et RMC Story. On attaque la troisième heure des GG avec Jean-Baptiste Djebbari, avec Didier Giraud, avec Kauter, Ben Mohamed. À 11h20, le GG 7 et match. Le réchauffement climatique. Est-ce que le président de la République a raison d'employer l'expression guerre? Nous sommes en guerre climatique. Alors, l'équipe, oui, Olivier et Jean-Baptiste. L'équipe, non, Didier et Kauter. Et vous venez en parler avec nous au 32-16, et vous votez aussi sur Twitter, puisqu'on va lancer la consultation. Dans un instant, le à vous de choisir, mais comme il est 11h05, vous avez encore 15 minutes devant vous pour vous inscrire, les amis. 15 minutes pour vous inscrire pour le jeu, me faire ouvrir l'enveloppe dans laquelle il y a un AirPad. Oui, ça, on dit bien un AirPad.
Un iPad ?
Un iPad.
Un AirPad, c'est
non, mais je te jure.
J'ai adoré ton regard.
De l'air, il y en a entre ses deux oreilles, de l'air. Hein.
Il y a...
C'est pas des AirPods.
Il y a l'iPad,
l'AirPod
et l'Apple Watch à gagner. Ouais. L'un des deux.
Dans l'enveloppe.
Et ensuite,
ou l'un ou l'autre.
Oui. Et ensuite, si vous tentez le coffre, dans le coffre, vous avez soit les AirPods
ou l'iPhone 14.
Soit l'iPhone 14, donc, qui sort dans les toutes prochaines heures.
C'est des pieds avec de l'air, l'AirPods. C'est ça.
Comment ?
C'est des pieds avec de l'air, l'AirPods.
L'AirPods, l'AirPhone, tout ce que vous voulez. Non, allez, vous envoyez coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez tout à l'heure avec nous à 11h20. On y va pour le à vous de choisir.
RMC, les grandes gueules.
À vous de choisir.
À vous de choisir, on vous a proposé deux sujets aujourd'hui sur rmc.fr. Deux sujets. Le premier était le menu 100% végétarien dans les cantines à Grenoble. Le deuxième, empêcher l'accès des sites porno aux mineurs, faisable ou infaisable. Votre choix, que l'on parle des cantines végétariennes mises en place à Grenoble. C'est-à-dire, c'est le menu par défaut qui est tout le temps proposé. C'est le menu végétarien.
Sauf que cette idée-là a été rejetée massivement par les habitants, les parents d'élèves de Grenoble. En fait, le maire de Grenoble, l'écologiste Éric Piolle, voulait mettre par défaut des menus végétariens à la cantine. Le problème, c'est que les parents n'ont pas suivi leur maire. Ils estiment que ce n'est pas une bonne idée. Ils se sont exprimés à 94% contre ce choix. Donc, en fait, l'idée, c'est de revenir à l'ancienne. C'est-à-dire, il y a un menu avec de la viande. Et si, une fois par semaine, ou je sais pas, et ou si vous ne voulez pas manger la viande, ben vous ne mangez pas la viande, parce que finalement quand il y a des légumes, on peut manger que des légumes, et on assume son végétarisme, comment on dit.
Non, mais c'est surtout
ouais, c'est choix. Voilà. Et on a le choix entre la viande, parce que là le problème de ce que proposait Eric Piolle, c'est que la viande devenait une option en fait, et on imposait un menu végétarien. Alors est-ce que c'était une fausse bonne idée, est-ce que pourtant
est-ce qu'il faut persister?
Didier Giraud, t'en penses quoi, toi?
Écoute, moi j'ai fait viande en première langue, donc
c'était pas une option, quoi.
Je suis content que même les gens qui ont élu Monsieur Piolle aient réagi, quoi. Parce que cette doctrine, enfin voilà, c'est ce que
ils mangeront au moins une fois par semaine un menu végétarien quand même à Grenoble.
Non, mais qu'il y ait une initiation végétarienne.
C'est la loi d'ailleurs maintenant.
Voilà, ça s'est passé dans la loi. Je peux comprendre que les choses évoluent et que, enfin, moi je trouve que l'école et la cantine de l'école, c'est plutôt un lieu de découverte. Ça doit plutôt être un endroit où tu éveilles les enfants à leur sens gustatif. Et ma vraie problématique avec ces gens-là qui sont dans la doctrine et qui sont des Khmer verts, on sait où ils veulent aller, quoi. Hein. Ils veulent aller au véganisme le plus strict et le plus complet. Et laisser faire la viande en option, enfin, je l'ai dit depuis longtemps, je l'avais dit quand il y a déjà un jour, c'est mettre un pied dans la porte que tu vas progressivement essayer d'ouvrir, quoi. Et je pense que...
Donc l'idée derrière, c'est la faire disparaître un jour.
Bah oui, c'est évident. Je pense qu'il faut combattre
cette
doctrine dès la première mise en œuvre telle qu'elle était là. Moi, je suis content que les gens aient réagi, parce que 94%, c'est quand même une bonne grosse claque, quoi. Hein.
Oui, c'est sûr.
Kauter.
Bah, écoute, moi, par principe, je suis contre l'imposition, en fait. Tu vois, donc les gens, s'ils veulent manger de la viande, ils mangent de la viande. S'ils veulent manger du porc, ils mangent du porc. S'ils veulent manger des menus végétariens ou végans, ils mangent des végétariens et du végan. Enfin, on est en 2022, tu vois.
Tout, c'est de le tout proposer.
Et tu proposes tout. Enfin, en plus, franchement, voilà.
Il y a plein d'endroits où c'est des selfs.
Voilà, aussi surtout, à partir du collège, c'est des selfs, tu vois. Mais à un moment donné, imposer aux gens, surtout quand à 94%, ils ne veulent pas de menus végans ou végétariens. Et je ne comprends pas, en fait, tu vois. Pour moi, c'est une ingérence dans ton assiette, dans ta manière de manger.
Et pour ton bien.
C'est ce qu'il dit.
Toujours.
Oui, pour ton
c'est
bien.
C'est ce qu'il dit, mais moi, en tant que parent,
pour le bien des gens.
Excuse-moi, en tant que parent, c'est à moi de décider ce que je veux qu'il y ait dans l'assiette de mon enfant. C'est pas au maire de la ville. Le maire de la ville, c'est M-A-I-R-E, c'est pas M-E-R-E. Donc, qui se démerde avec ce qu'il met lui dans son assiette, dans l'assiette de ses enfants, s'il en a.
Bah, on a quand même fait voter une loi pour imposer le menu végétarien une fois par semaine.
Une fois
donc,
par semaine, c'est pas toujours.
Les députés se sont ingérés en quelque sorte dans l'assiette de nos enfants. C'est pas piolle, c'est nos députés.
Une personne qui mange pas beaucoup de viande.
C'est grave déjà.
Par essence, tu vois. Et mon fils tend à devenir végétarien et c'est peut-être lui qui me l'impose, etc. Parce qu'il considère qu'on ne doit pas manger des animaux qui nous ont rien fait. Je schématise, mais en gros, c'est ça. Et il n'a que 12 ans. Alors que la nouvelle génération soit sensibilisée à ça, tu vois, vraiment, hein. Et qu'ils imposent à leurs parents et qu'ils en parlent à leurs parents, oui, mais c'est pas au maire de l'école de t'imposer que ça. En fait, les gens doivent avoir le choix, en fait.
C'est qu'à un moment donné, que ça, c'est dangereux. Surtout sur des enfants qui sont en construction, qui ont besoin d'un apport protéique.
Mais si, tu peux la manger chez toi, la viande. Fait, tu vois, manger la viande midi et soir,
du coup,
voilà.
Moi, j'attendrais d'un écolo plutôt qu'il aille vers le fait de leur faire découvrir
une éducation.
De la viande locale.
Éric Piolle, c'est pas n'importe quel écolo. Hein.
Éric, non, mais
Éric
voilà,
Piolle, c'est
ça
la fraction radicale des écologistes.
C'est ça le problème.
Candidat à la présidentielle, c'était Éric Piolle, Sandrine Rousseau, même combat. Ils ont été d'ailleurs minoritaires. Ils ont tous les deux perdu l'investiture à la présidentielle et Éric Piolle il est comme tous ces écolos autoritaires qui rentrent effectivement par des politiques publiques pour imposer sa vision du monde qui est une vision sans viande pour être extrêmement clair. Et moi je pense qu'il y a deux autres sujets. Un, il y a le sujet du choix que vous avez très bien dit tous les deux, puis deux, il y a quand même un sujet social. Il y a quand même des familles dans lesquelles tu n'as pas beaucoup d'argent pour acheter de la viande ou du poisson d'ailleurs.
C'est ça.
Donc l'école est le seul endroit où on mange de la viande.
Quasiment. Certaines familles. Oui, c'est vrai, il a raison.
Et donc, il y a un rôle social, non seulement d'initiation et de découverte, et puis il y a un rôle social, parce qu'effectivement, c'est plutôt très bien d'aller vers moins de consommation de viande et plus de qualité. On a déjà eu ce débat-là à plusieurs reprises, probablement, à l'échelle de la planète. Mais je rappelle quand même que Sandrine Rousseau, quand elle a fait son référendum Beefsteak ou Planète, elle a pris le même score,
mais elle a perdu.
6%, elle a perdu. Donc, les gens ne pensent pas comme Sandrine Rousseau et Éric Piolle, c'est probablement très bien.
Et je pense que ces gens-là, ils sont tellement extrémistes qu'ils ont du mal à être en minorité, quoi.
Là, il n'est pas en minorité. À Grenoble, il est maire, il est
bien
terrible.
Bien sûr, mais ils subissent le choix.
Qui les habitants. Parce que même s'ils ont élu Éric Piolle à la mairie de.
Là, ils ont dit non, donc ils n'auront pas.
Il faut réfléchir, quoi. Dans mon village, on n'a pas élu un écolo comme Piolle, quoi.
Éric Piolle, c'est Burkini à la piscine. On parle pas de quelqu'un très
bon. Derrière, c'est quand même.
Après, c'est vrai qu'il
y a des constructions et compagnie, quand même.
Mais là, de toute façon, il n'y aura pas, puisque les habitants ont dit non. Mais je rappelle que la loi, c'est quand même un menu végétarien obligatoire chaque semaine. Ça, c'est la nouvelle loi.
Il faut quand même rappeler quelques règles, d'équilibre de la planète. Moi, je veux bien que la viande, ça va tous nous tuer et ça va faire fondre la planète. Mais n'empêche que.
Non, c'est pas ça. C'est l'élevage intensif.
Oui, exactement.
Mais c'est bien ça le problème.
C'est ce que j'allais dire. M'engueule pas. C'est que justement ça va contre ces élevages intensifs.
Alors, ça, c'est une chose, mais ça va plus loin que ça. C'est qu'aujourd'hui, à l'échelle du monde, quand tu remplaces un kilo de protéines animales, tu le remplaces par un kilo de protéines végétales. Pour produire un kilo de protéines végétales à l'échelle de la planète, j'entends, il te faut plus de pesticides, il te faut plus de produits phyto, il te faut plus de semences, de semenciers protégés par et derrière ça, il y a les lobbying du végétal, quoi.
Oui,
et je pense qu'il faut que la planète ouvre les yeux par rapport au véganisme. Le véganisme, c'est tout sauf de l'écologie. Ma viande produite avec de l'herbe, elle a un bilan carbone meilleur que le steak de tofu qui est produit au Brésil en arrachant la forêt amazonienne et en mettant du soja avec des produits transgéniques et des pesticides, quoi.
Hier, notre train fait un détour par le Creusot pour récupérer des voyageurs qui n'avaient pas de correspondance. Et j'arrive.
Des joueurs de foot?
Peut-être. On ne nous a pas donné leur identité. Et en fait, je regardais par la fenêtre, je trouvais que c'était beau, en fait. Il y avait belles vaches. Belles vaches, tu vois, elles étaient des petits troupeaux, tu vois, une vingtaine, une trentaine. Et je me disais, ça doit être chez Didier, ça. Mais je rigolais seule, en fait. Et d'un coup, j'arrive, je vois le Creusot. Et bien, franchement, moi, quand je vois des vaches comme ça, tu vois, dans les pâturages, dans l'herbe, tu vois, posées, c'est quand même. plus agréable
que des voir dans l'assiette.
Que des non,
du steak que de voir de tofu.
Parce que c'est un steak plus tard, hein, quand même.
Que de voir ces vaches enfermées dans des énormes hangars, tu vois, dans l'élevage intensif, etc., etc. Elles ont une vie avant de mourir, quand même, tu vois. Alors celles qui sont dans l'élevage intensif, je suis pas sûr que ce soit vraiment ça la vie d'un animal.
On a Loïc qui veut intervenir dans la discussion. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Bienvenue Loïc de Haute-Loire, mon cher ami. Vous avez choisi le camp Rousseau, le camp Piolle Rousseau ou le camp Giraud, alors, finalement?
Camp Giraud, comme à peu près à chaque fois.
Pourquoi, dites-moi?
Eh ben, écoutez, moi, je voulais réagir un petit peu par rapport aux cantines, parce que, du coup, moi, j'ai deux enfants en maternelle, en primaire, et donc, une fois par semaine, à la cantine communale, il y a un menu végétarien. Donc, ils ont la possibilité, du coup, d'avoir un jour par semaine où on est sur du végétarien. Mais après, moi, le reste de la semaine, je veux qu'ils aient aussi des protéines animales, qu'ils goûtent aussi à autre chose. Je veux pas qu'il y ait que des menus végétariens qui soient proposés pour leur repas du midi. Pour moi, ils ont un besoin de tout goûter et de tout essayer. Donc, le menu végétarien, oui, une fois, pourquoi pas. Et je veux pas non plus que ce soit que du soja qui vient, comme on disait, du Brésil, qui vient de la déforestation. Autant que ce soit de la viande qui soit produite localement, des choses qui sont d'à côté, quoi.
Et je pense qu'avec votre léger accent, autour de chez vous, il doit y avoir de la bonne viande.
Eh ben, disons que moi, mon père était agriculteur, faisait de la limousine. J'ai une entreprise de sécurité d'incendie. Je travaille avec énormément d'agriculteurs dans le Rouennais, donc la base du Charolais. La bonne viande sur du circuit court, c'est ultra simple d'en avoir chez nous, quoi.
Mais au-delà de ça, il y a un problème de goût. Moi, tu ne me feras jamais manger du tofu de ma vie. Je préfère ne rien manger, tu vois ce que je veux dire? T'es pas obligé d'aimer ces produits aussi, non mais.
J'ai une expérience avec quelques-uns de mes amis grande gueule où on avait emmené du fromage 100% végétal chez Johnny Blanc. Et il t'explique, Johnny Blanc, que même le clébard a pas voulu le bouffer.
Non mais c'est voilà.
Non, c'est vraiment infâme. C'est vraiment infâme.
Mais Loïc, attendez, moi je voulais savoir, vous-même, quand même, sur le fond, est-ce que vous avez, on va dire, modifier vos habitudes alimentaires ou pas, quand même?
Loïc. Modifier les habitudes alimentaires, non. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment le souci écologique. Vraiment, j'y fais attention. Je privilégie les circuits courts qui vont avoir justement un bilan carbone bien moins important que des choses, même de la viande qui vient d'Argentine. C'est hors de question. Je préfère y faire attention sur la localité, d'où provient et quel producteur je fais travailler, plutôt que qu'est-ce que je vais manger comme matière. J'avais réagi au début du coup sur votre antenne, parce que nous on a à l'école maternelle, j'ai trouvé quelque chose de très bien, un programme qui se fait sur cette année où les petits vont partir en voyage scolaire 2 jours pour aller dans une ferme pédagogique où ils vont voir des animaux, et tout le long de l'année, en partant de ce voyage scolaire, ils vont partir sur le bien manger pour bien grandir.
D'accord.
Et ils vont aussi leur parler de protéines animales, ils vont aussi leur parler des végétaux, de tout ce qu'il faut pour manger, mais l'aspect protéines animales va être mis en avant. C'est quelque chose qu'ils ont besoin pour moi, et du coup, pendant toute l'année, ils vont travailler là-dessus et on va les éduquer à bien manger. C'est peut-être plus simple à faire en campagne que dans des grandes villes.
Mais vous soulevez un point qui est très, très, très important, parce que moi, j'avais mis dans mon programme, quand je me suis présentée de manière très héroïque, qu'en fait, il fallait, dans toutes les écoles, y compris dans les grandes villes, que les enfants, parce qu'on leur demande de respecter la nature, les animaux, mais ils ne connaissent pas, en fait. Il y a des écoles privées. Exactement. Il y a des écoles privées à Marseille qui ont un espace. C'est prévu, en fait. Quand tu le prévois, c'est prévu. Donc, hier, j'ai failli interpeller M. Blanquer, qui était là à la soirée de Zora, mais il a été très sollicité, même s'il n'est plus ministre de l'Éducation nationale. Au cours Bastide à Marseille, pour ne pas citer cette école, il y a comme une ferme, en fait. Il y a une chèvre.
Pédagogique.
Ouais, il y a une chèvre, il y a une poule, il y a un cochon, les petits. Donc, c'est de la maternelle jusqu'au lycée. Les petits ont un potager, tu vois, et c'est comme ça aussi que tu fais l'éducation à l'environnement et l'éducation.
Obligatoire dans les lycées agricoles. Quand tu vas dans un lycée agricole,
oui, mais
c'est extraordinaire.
Avant.
Et je pense que même dans le tronc commun, tu devrais avoir des formations.
Mais oui, avant. Moi, je considère que les enfants, ce qu'il a dit, c'est important.
Ouais, mais pour revenir,
deux jours de stage, tu devrais avoir accès à ça à l'école.
Mais pour revenir à notre débat, je pense que malheureusement, avec l'augmentation du prix de l'alimentation, certaines mairies vont devoir faire des arbitrages. Est-ce que la viande va pas être sacrifiée, pas pour des raisons idéologiques, mais mais pour des raisons simplement de budget. Hein.
Je martèle ce message, mais je pense qu'on est à la croisée des chemins sur le fait qu'il faut faire comprendre aux gens que manger, c'est pas gratos, quoi. Voilà. Et derrière ça, dans les choix qui sont faits, Enfin, tu vois, moi, j'ai un souvenir de ce que j'ai mangé à la cantine. C'était, par exemple, une ouverture au poisson, quoi. C'était une fois par semaine poisson à la cantine.
Mais attends, ma question, question, Didier, c'est que il y a des mairies qui vont pas vouloir augmenter le tarif de la cantine, et qui vont donc réduire les portions. Ça commence dans certaines mairies.
Réduire les portions.
Peut-être que la viande sera sacrifiée.
Allez, on plus ça sur les entrées. Jean-Baptiste, parce que il y a un maire là qui a effectivement supprimé les entrées parce que 80% des entrées n'étaient pas mangées et qu'il y avait une dimension budgétaire. Donc ça peut-être.
On se bat contre le gaspillage. C'est là.
Didier, t'es en train de créer un problème dans mon couple puisque ma femme me dit, il dit n'importe quoi le moustachu. Je ne suis pas fier de toi. Donc
d'accord.
Il y a voir que.
Elle est plutôt végétarienne.
Elle a basculé depuis quelques. Donc je t'invite à la maison.
Alors là, moi j'ai des chiffres.
Pour rétablir le.
J'ai des chiffres étayés.
Eh ben tu les gardes.
Sur le kilo.
Merci.
Le débat, ça sera chez Gébari. Donc ouais,
merci.
Tu ramènes des soins. C'est gentil. Merci.
Merci. Merci monsieur Loïc d'avoir été avec nous. On a la consultation, le menu 100% végétarien à l'école. Est-ce que c'est une bonne idée? Non. 83%, mon cher Didier, tu as encore de l'avenir. Allez, c'est l'heure d'accueillir notre gagnant et on va ouvrir l'enveloppe et peut-être le coffre si Christophe du Nord est joueur. Bonjour Christophe.
Bonjour.
D'où vous nous appelez d'où?
Je vous appelle de. Je suis au travail actuellement, je suis à Saint-Germain-en-Laye.
Oui, non, mais la ville dont vous nous appelez.
Saint-Germain-en-Laye dans le 59.
D'accord. Alors, mon cher Christophe, on va ouvrir l'enveloppe. Ça, vous savez que vous avez gagné, de toute façon, en m'envoyant coffre par SMS au 732-16. Je vais vous dire ce qu'il y a dans l'enveloppe. Vous avez la montre Apple Watch. D'accord ? Ça, c'est gagné. Maintenant, êtes-vous joueur ?
Bravo, tout d'abord, bravo.
Êtes-vous joueur ou pas ? Est-ce que vous voulez que j'ouvre le coffre ?
Il y a mon téléphone, il est fatigué. Alors, en plus, je suis fan d'Apple, donc je compte vraiment sur le coffre.
Allez, vas-y.
C'est Jean-Baptiste et ses gros muscles.
Alors attendez. Go, on ouvre le coffre.
Qu'est-ce qui se passe, Jean-Baptiste? C'est le porteur de coffre maintenant. Là.
Alors, on y va. Alors. Attendez, je planque la combinaison parce que c'est une combinaison qui est très compliquée.
On y va.
Tac.
Donc là, tu fais la combinaison. C'est pas long du tout.
7772 QFZ 443F. Voilà la combinaison. Et là, j'ouvre.
Essaye.
Le nouvel iPhone.
Merci à toute l'équipe de RMC.
Bien joué, Christophe.
L'iPhone 14 qui sort dans les toutes prochaines heures, il est pour vous, Christophe.
Merci beaucoup à tous.
Il est joueur, il a eu raison.
Il a pris le risque.
Il a pris le risque.
Ça, c'est la France.
Casse le pas.
Je vous fais taper sur
de
Gébari.
C'est la France qui
risque. Il est tombé. Quel dommage.
Toi, l'Apple Watch.
Bravo, félicitations mon cher Christophe.
Merci beaucoup.
Ça valait la peine de tenter le coup. Prochain gagnant tout à l'heure avec Estelle Midi, Estelle Denis entre midi et 15h. Encore bravo, c'était le coup de bol du jour, je crois même. On est mercredi.
C'est pas que le coup de bol, il a joué, il aurait pu.
Il a pris son risque.
Ouais, il a pris un risque. Bravo.
Faites à l'auto en plus ce soir, Christophe, on sait jamais.
Je vais pas hésiter, je vais le faire.
Salut, bonne journée mon cher Christophe, à bientôt. Dans un instant, le GG7 et match, réchauffement climatique. Le président de la République a-t-il raison d'employer le terme guerre climatique? On a deux équipes face à face. L'équipe Olivier Jean-Baptiste, oui. L'équipe Didier Caouter, non. Et on vous attend au 32-16 pour arbitrer tout ça.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules. Si vous les ratez le matin à 9h, aujourd'hui mercredi, vous avez peut-être des petites choses à faire avec les enfants, qui sait, ça peut arriver. Et vous avez à votre disposition les replays, ou plutôt les podcasts. Écoutez les grandes gueules en différé via l'appli RMC ou notre site internet rmc.fr. Et les GG sont encore la première émission d'actualité la plus écoutée en podcast, 9e émission en France. Si on prend les émissions de divertissement, les émissions musicales, on est dans le top 10, les grandes gueules, avec plus de 3 millions d'écoutes, 3,1 millions. Oui. On a pulvérisé le Moscato Show.
Non, voilà. En fait, ce qui nous intéresse avant tout, on avait lancé un défi la saison dernière, il fallait qu'on passe devant Moscato. Eh bien, on l'a fait cet été. En juillet, les GG étaient devant Moscato en podcast. Et en août, on a les résultats. au mois d'août, avec 3,1 millions d'écoutes ce mois-ci, eh bien on est passé devant le Moscato Show qui est 13e, c'est pas mal non plus, mais c'est que 13e, 2,1 millions de téléchargements. Désolé Vincent, mais les GG ont pris
c'est que le début.
Et surtout qu'on les écoute plus claironner ces jours.
Mais c'est, tiens, l'été, le Moscato Show, ils sont en claquettes chaussettes, oui. Tu vois, ils sont en vacances pendant que nous, Olivier et moi, juillet, ben voilà, août, on est sur le pont.
C'est la France
quand
qui travaille.
Quand tu travailles, quand tu te lèves tôt et que tu travailles,
il y a du
ça
résultat.
Vaut le coup. Quand tu glandes en claquettes chaussettes,
n'est-ce pas,
tu te fais pulvériser, hein, c'est voilà, normal.
Et on verra en septembre.
Eh ben tiens, là on les attend. Allez, on y va pour le GG 7 et match.
RMC. GG 7 et match.
GG 7 et match, nous sommes en guerre, guerre climatique, il suffit de réécouter le président de la République.
Nous sommes en guerre, c'est un état de fait. L'énergie fait partie des instruments de guerre utilisés par la Russie. Et donc, nous devons absolument nous mettre en situation de produire plus vite des sources alternatives d'électricité. Aujourd'hui, nos rythmes quant aux travaux pour permettre les capacités de production en renouvelables ou en nucléaire montrent que nos projets sont trop lents. Et donc, face au défi qui est le nôtre aujourd'hui, on doit aller beaucoup plus vite dans la production de ces énergies renouvelables.
Est-ce que c'est comme musique ?
Terminator.
Terminator. Alors, est-ce qu'effectivement nous sommes en
Emmanuel
guerre ?
Macron, c'est Sarah O'Connor.
Et Emmanuel Macron a-t-il raison de parler de guerre énergétique, d'employer cette expression ? Équipe non, Didier Kauter. Équipe oui, Jean-Baptiste et Olivier. La parole à l'équipe oui, Jean-Baptiste Djebari. Une minute pour défendre le point de vue. Ben, go.
Il a évidemment raison. D'abord, il faut rappeler qu'il y a toujours une concurrence extrêmement forte sur les ressources énergétiques. Je rappelle même qu'on a créé l'Union européenne pour produire l'acier en commun et s'éviter la guerre. Donc, on a toujours été dans ce sujet guerre et paix. Deuxièmement, on est dans un monde qui est géopolitiquement hyper déstabilisé. C'est la Chine, les US, l'OTAN, la Russie. La Russie, le président le rappelait, utilise l'énergie comme une arme de guerre pour déstabiliser l'Europe, son économie, ses populations, éventuellement susciter des révoltes. Et donc le président a raison d'employer ce terme et de se dire qu'on va se doter des contre-mesures pour amortir l'effet de la guerre énergétique que nous fait la Russie ou que fait la Russie à l'Europe et in fine essayer de retrouver une voie diplomatique mais en ayant mené ce rapport de force. Le président a raison, c'est bien une guerre sur l'énergie qui s'exerce actuellement en Europe et dans le monde.
Je crois que c'est la première fois que quelqu'un termine avec 15 secondes d'avance.
Non.
D'habitude, c'est 50 secondes
c'est
de retard.
Vous, les gars. On vous offre.
Là, c'est 15 secondes d'avance.
C'est parce que vous manquez d'arguments, tout simplement.
Jean-Baptiste Djebari. Allez, on y va. La réponse. Qui s'y colle ? Kauter ou Didier ? Go.
Écoute, moi, je constate le danger qu'il peut y avoir autour de l'énergie. Mais j'en ai marre qu'on utilise le mot guerre à toutes les sauces. On était en guerre contre le Covid. On est en guerre contre l'Ukraine. On est en guerre. Enfin, voilà. À force de prendre cette position. Oui,
avec mais on n'est pas en guerre.
D'ailleurs, et je pense que à force d'utiliser cette position de Dux Bellorum là, qu'il fait paraître aux yeux de l'opinion, Dux Bellorum, chef de guerre, oui, en latin, c'est quelque chose qui, tu vois, c'est cette position qu'il a portée au nu, il en abuse trop. Et la thématique guerrière, elle est réservée à la guerre, la vraie guerre, quand il y a des gens qui meurent. Et je
c'est
trouve que
aujourd'hui.
Extrapoler cet excès de langage, ça a un côté. Enfin, tu vois, les gens, ils y prêtent pas autant d'intérêt. Oui, le contexte autour de l'énergie, il est hyper anxiogène et il faut faire hyper gaffe à ce qu'on fait. Et il y a des solutions à trouver. Mais en même temps, je pense qu'il va y avoir concurrence dans notre pays demain entre la production d'énergie et l'alimentation, parce que la production d'énergie, elle consomme aussi du territoire. Et demain matin, il y a un enjeu autour de l'alimentation et de l'indépendance alimentaire, où là, pour moi, c'est plus une arme encore.
Mais
que la production
moderne,
d'énergie.
C'est pas que les guerres militaires. Hein. Les guerres modernes, c'est l'information.
On est d'accord.
C'est le cyber.
Je pense que c'est contre-productif de toujours utiliser ce champ lexical autour de la guerre. C'est une posture d'un chef d'État. Voilà.
Oui, mais là, on sera sans doute d'accord. Mais autant pour le Covid, effectivement, le terme de guerre semblait complètement à côté de la plaque. Autant là, c'est factuel. C'est-à-dire qu'on a face à nous un président
quelqu'un
russe
qui nous fait la guerre.
On
et
a un président russe qui utilise ses ressources comme outil, comme arme de guerre. Mais d'ailleurs, il y a des films de propagande. Je vais parler. Des films de propagande où les Russes sont en train d'expliquer que l'hiver va être terrible pour les Européens qui vont se révolter parce que justement c'est leur propagande guerrière. Nous avons du gaz, vous en voulez plus. Eh bien, vous allez en subir les conséquences. Donc, il a raison de dire qu'il y a une guerre énergétique. Et il faut reconnaître que on s'est tiré des balles dans le pied parce que sur le nucléaire, mais ça on l'a dit souvent, on a pris de mauvaises décisions et le président Macron en partie. On n'a pas non plus, on est peut-être pêché par naïveté parce que nous en France on ne croyait pas à l'invasion de l'Ukraine avec les Allemands. On était persuadés que ça se ferait pas, alors que les Américains nous disaient si, Poutine est en train de s'organiser. Là aussi il y a eu un échec, d'Emmanuel Macron. Il faut le reconnaître
mais ça,
aussi.
C'est la vraie guerre.
Voilà. Donc mais on est dans le temps d'une guerre. Alors on est plutôt en pas ce moment Macron, en train d'accumuler un peu les défaites. J'espère qu'on va en gagner quelques-unes aussi. On nous dit qu'à un moment donné, les sanctions contre la Russie vont payer. Pour l'instant, on voit pas grand-chose. On espère qu'un jour, ça va payer et que ça permettra peut-être à Poutine de se mettre autour de la table des négociations. Et quand on aide l'Ukraine, bien sûr qu'on n'est pas directement en guerre contre la Russie, mais quand on donne des armes à des Ukrainiens pour que ces Ukrainiens se battent contre les Russes, pardon, mais on fait la guerre, on fait la guerre indirecte.
Non,
mais
c'est
la guerre.
Donc, le terme de guerre est tout à fait approprié. Non, on fait pas la guerre. Quand on soutient. Les pays occidentaux ont toujours soutenu des pays d'ailleurs qui étaient en guerre. On n'a pas commencé avec l'Ukraine.
Oui, ben on faisait la guerre par.
En 2014, par peuple Poutine, interposé. Poutine a déjà fait l'invasion de l'Ukraine, etc., etc.
La Crimée.
Donc ça n'a pas marché. Lui, il s'est préparé à faire la guerre. Pendant que nous, on joue au bisounours à faire des polémiques sur rien et surtout dans notre pays. Quand on utilise le mot guerre, ça veut dire, il y a pas de bombes chez nous, fort heureusement.
Mais la guerre, c'est pas forcément des bombes.
Oui, non, mais quand tu dis qu'on n'est pas en guerre.
La guerre, elle peut être informatique, elle peut être.
Vas-y, fais le débat social. On n'est pas en guerre. On devrait être en guerre sur l'énergie et on devrait, c'était déjà un pré-débat entre Anaïs et moi hier, et on devrait être en guerre sur la question de l'environnement et du climat tout court. Mais aujourd'hui, on ne se donne pas les moyens d'être en guerre et de gagner cette guerre.
On est dans aucune méthode. Carboné, c'est la guerre. Il y a un truc qui est très carboné. Et quand t'as pas de paix, quand t'es en guerre, tu fais pas la lutte contre le climat. Donc tu vois, la condition.
Non, mais ça fait 6 mois qu'il y a la guerre. Ça fait 6 mois qu'il y a la guerre. C'est son deuxième mandat. Et je rappelle qu'avant ça, il était déjà dans le gouvernement, même s'il n'était pas responsable des affaires étrangères, etc., ni ministère de l'armée. Il était déjà dans le gouvernement de Hollande. 2014, c'était pas lui le président, c'était Hollande. Donc, à un moment donné, faire comme si on découvrait ça aujourd'hui, alors qu'en face, ça fait presque 10 ans qu'il se prépare, faut qu'on arrête le monde des bisounours. Tu vois ce que je veux te dire?
La vraie différence, si on parle vraiment de la guerre militaire, c'est que l'Europe a organisé la paix et que les décideurs. Ont vécu ce qu'on appelle les dividendes de la paix et qu'on pensait des conflits un peu asymétriques, le terrorisme, la guerre lointaine, des régions qui étaient déstabilisées. On pensait plus la guerre en Europe.
Donc on a baissé la
guerre. La guerre, c'est ce que je te dis. La guerre énergétique, parce qu'il m'a coupé, je vous ai laissé parler. La guerre énergétique, elle a été organisée aussi par Poutine.
Non mais c'est pas toi qui distribue la parole.
Oui, mais j'ai pas fini, il m'a coupé.
Tu disais, les gouvernants, les politiques n'ont pas organisé simplement. Je pense que effectivement, on a pensé collectivement qu'en Europe, la paix, c'était la paix pour longtemps, pour toujours. Et on pensait des guerres distantes, des guerres par proxy, des guerres informatiques, des guerres avec des cyberattaques, etc. Et plus les guerres de haute intensité.
Non, le retour de la guerre.
Le retour de la guerre. Du 20e siècle, avec de l'artillerie.
Des chars.
Pendant longtemps, avec des positions qui sont fixées pendant des années. Et c'est ça, en fait, qui choque tout le monde en Europe. Et c'est là-dessus. Sur le plan militaire, que tout le monde doit se renforcer. Regarde ce que fait l'Allemagne. L'Allemagne met 100 milliards se remilitariser.
Est-ce que ça qualifie du coup la partie énergétique de guerre?
Parce que l'énergie en tant que telle est utilisée comme une arme de guerre.
On peut s'entendre sur le fait que ça s'appelle guerre, si vous voulez.
Bon, bah alors, finalement, t'es d'accord avec nous.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, le fond du problème, c'est quand même nous qui avons aussi créé cette.
On a créé notre fragilité.
Non, c'est pas ça. C'est parce qu'on n'a pas assumé des mecs, quoi. Parce que l'Europe n'ayant plus d'armée, on met des mecs en Ukraine, on va combattre en Ukraine. Et aujourd'hui, c'est parce qu'on est des couilles molles sur le combat qu'on a pris des mesures contre Poutine qui nous fait, guerre énergétique.
Non, ça c'est pas responsable. T'as 2 puissances nucléaires. Tu sais ce que c'est quand même une bombe nucléaire? Quand même pour que les gens aient une idée. Rappelez-vous l'explosion de Beyrouth. Oui. Beyrouth, ça a fait du dégât, quoi. Beyrouth, c'est 20 fois moins qu'Hiroshima. Et la plus petite bombe nucléaire qu'on a aujourd'hui, c'est 20 fois Hiroshima, en gros. Donc, enfin, il faut t'imaginer qu'un conflit où tu mets deux puissances nucléaires et tu commences réellement à être belligérant face à face, mais enfin, le risque, c'est quand même qu'à un moment, oui, mais... t'aies des bombes qui partent, que tu montes. Enfin, c'est non, un mais... truc.
Alors, on continue la discussion. Attendez, on continue la discussion. Aujourd'hui, on continue la discussion dans un instant. Le temps de passer par la consultation, voir si le président a raison d'employer le terme de guerre pour parler de cette crise énergétique, oui ou non. C'est un non à 86% en faveur de Didier et de Kaouter. Et la discussion continue.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules suite de la discussion autour de ces termes de guerre employés de nouveau par le président de la République dans le contexte que l'on connaît, le contexte de bras de fer énergétique. Et je vous conseille d'aller voir d'ailleurs le clip qui a été mis sur les réseaux sociaux par la société Gazprom. Où Gazprom nous promet le froid, enfin ils promettent le froid et le crépuscule à l'Europe avec une musique... des ténèbres qui nous
envoient de guerre.
Est-ce que oui ou non, il faut employer ce terme de guerre énergétique? Gérald, bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Alors, on a
bonjour.
L'équipe oui pour Olivier et Jean-Baptiste, non pour Kaouter et Didier. Quelle est votre équipe alors?
Kaouter et Didier.
Non, on ne doit pas parler de guerre. Pourquoi?
Non, parce que en fait aujourd'hui Macron utilise le même récit qu'il faisait avec le Covid, en utilisant les mêmes rhétoriques comme la guerre par exemple. Il cristallise un climat anxiogène auprès des Français afin de nous mettre au pied du mur et en fait de nous responsabiliser sur l'utilisation de l'énergie qu'on va avoir peut-être dans les mois qui vont suivre, en nous chauffant évidemment qu'à 19 degrés dans la maison. J'ai hâte de voir en fait s'il y aura un contrôle là-dessus, s'il y aura une police énergétique qui va venir chez nous pour prendre les températures. Ça, on en reste là pour l'instant.
Ils y pensent.
Voilà, vous voyez. Voilà.
Et donc aujourd'hui,
si nous en sommes là aujourd'hui, c'est à cause des décisions politiques, ni plus ni moins, des décisions politiques françaises et européennes. Si la France aujourd'hui ne dépend pas de la Russie sur le gaz ou n'en dépend qu'à hauteur de 15%, qu'en est-il devenu de notre pays sur notre souveraineté énergétique? On avait une technologie de pointe avec des ingénieurs compétents et Macron s'en est tout simplement débarrassé en les revendant à General Electric, et vous connaissez l'histoire avec Alstom et les turbines Mirabel, etc. Et aujourd'hui, si le manque énergétique est aujourd'hui en France comme ça, c'est à cause de lui, c'est à cause de la politique française telle qu'elle est depuis ces 10 dernières années. Pourquoi on a fermé nos centrales électriques et on met tout sur le dos en fait du PDG qui, entre guillemets, avait toujours suivi Macron sur la fermeture en fait des centrales électriques.
Donc en fait, vous dites, pour résumer votre raisonnement, Gérald, vous dites c'est gonflé de dire qu'on est en guerre alors qu'on s'est nous-mêmes désarmés, quoi, en fait.
Mais
c'est
carrément,
ça.
Qui c'est qui a mis des sanctions à la Russie? C'est l'Europe. Qui ne veut pas payer en fait le gaz?
Il fallait pas sanctionner la Russie.
Il fallait abandonner l'Ukraine.
Soyez plus intelligent que ça. Regardez ce que fait par exemple l'Espagne. L'Espagne, eux, ont choisi d'avoir plus une souveraineté énergétique. Par exemple,
ils ont voté les sanctions russes
sur l'électricité. Donc du coup, nous, on est en 630 euros à peu près kilowattheure. Eux, ils en sont trois fois moins chers avec des décisions politiques qu'eux-mêmes ont prises. Voilà, et donc eux, ils ont pas de problème.
C'est pas la question. Les Espagnols ont voté les sanctions contre la Russie.
Non, mais si on est en guerre, les garçons, si on est en guerre.
Oui, mais aujourd'hui, ils n'en sont pas touchés.
Si on est en guerre, l'État doit prendre des mesures pour protéger les Français. Et moi, quand je lis. Si cette étape de sobriété volontaire ne fonctionnait pas, alors son gouvernement pourrait passer à la contrainte énergétique. Et si ces contraintes ne suffisent pas, alors la France passerait au plan de rationnement. C'est ça le plan de guerre, en fait.
C'est comme ça.
Non, mais excuse-moi. Excuse-moi. C'est comme ça que tu protèges les Français. Qu'est-ce que tu fais, en fait, à part vouloir, tu vois, toujours contrôler ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, ce qu'on mange, ce qu'on ne mange pas? À quel moment on se prépare comme s'est préparé
Poutine?
Du coup, tu
fais quoi? Parce que si à un moment, tu as effectivement un blackout, tu n'as plus assez d'énergie pour alimenter les bâtiments publics, les hôpitaux, tu fais quoi? Tu attends en fait que ça arrive et tu dis « Ah bah, j'ai pas anticipé ». Il vaut mieux quand même être assez lucide sur l'état du moment, se dire « En hiver, il y a des paramètres, il peut faire froid, il peut faire chaud, on peut avoir du gaz et pas du... » Et puis se dire, c'est quoi le scénario du pire? Et donc, du coup, dans le cas du scénario du pire, s'il venait à advenir, eh ben, je ferais ça.
Non, mais ça, je peux te poser une question?
C'est le problème, ouais, c'est le boulot du politique. Mais moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que la ficelle, et Gérald l'a très bien dit, la ficelle, on la connaît. C'est la ficelle du Covid où on te prépare au pire.
Moi, je crois que c'est pas du tout de la même nature.
Accepter
moi,
des contraintes.
J'entends l'argument sur la rhétorique du Covid, mais je crois que c'est pas du tout la même nature.
Il a fait une erreur d'utiliser
utilisé le terme guerre pendant le Covid. Ça,
c'est la même chose.
Non, c'est
on se prépare début septembre au pire pour cet hiver. C'est la guerre, on te prépare au pire. Et comme ça, tu vas accepter un peu moins de contraintes.
Je comprends cette critique-là rhétorique, mais en l'occurrence, sur l'énergie, ce qu'on vit actuellement, effectivement, il y a une forme de guerre pour l'énergie, et c'est utilisé comme une arme de guerre par Poutine à l'égard des Européens,
c'est une réalité,
que nous sommes un peuple décadent, qu'on n'a pas de je ne sais quoi, et qu'on va se coucher, et qu'on va livrer l'Ukraine pour se garder, en gros, un hiver pas trop mal, un peu de gaz russe. Et
la guerre, c'est se battre. Nous, on est des bisounours.
T'es contradictoire. Parce que si on se couchait, on aurait dit, bon, bah, très bien, tant pis, on laisse Ukraine à Poutine et on continue d'acheter du gaz russe comme le font les Allemands depuis des années. Et les Allemands, il faut reconnaître, ont décidé de dire, bah non, on se passera du gaz russe. Et pour eux, c'est très compliqué. Il y a des régions comme la Bavière, région économique forte, qui dépendent vraiment beaucoup du gaz parce que on dit non à cette invasion. Donc tu peux pas dire qu'on s'est couché. Bah, alors après, on peut aller plus loin, comme le suggérait Didier, envoyer des soldats. Mais enfin, là, effectivement.
Alors merci à Gérald.
À la clé, mais tu peux pas vraiment chaoter. On peut pas reprocher tout son contraire à ceux qui nous gouvernent. Là, ils se sont pas couchés. Et le fait de pas se coucher, pour l'instant, c'est vrai que ça nous revient un peu dans la figure. Voilà, ça c'est sûr.
Et chaoter.
Merci.
La guerre, c'est l'affrontement de volonté. C'est l'exercice du rapport de force.
Oui.
À la fin, quand tu as du rapport de force.
Mais nous, on n'a pas de rapport de force.
Mais si, mais c'est le même.
Bien sûr qu'on en a.
Pour l'instant, on a plus.
On a quoi sur la table, concrètement? Poutine, on le subit pour l'instant. On a quoi?
Poutine, il pensait être à
Kiev. C'est comme si on allait faire un bras de fer. On a quoi, en fait?
Poutine, il
pensait être... T'aurais voulu que Kiev soit russe, quoi, en fait.
Non, mais...
Poutine, enfin, il faut...
Je peux être... À un moment donné, excuse-moi, pourtant j'ai pris position pour l'Ukraine, etc. Mais il n'y a pas que la guerre en Ukraine. Il y a la guerre en Syrie, il y a la guerre partout.
Eh bien, Poutine est en train de gagner la bataille.
Je suis en train de dire qu'on importe. Tu vois, quand on parle... je vais mettre bien épais sur... Quand on parle de Syrie, quand on parle de Palestine, quand on parle de tout ce qui se passe ailleurs, d'Irak, d'Afghanistan, on dit, vous importez les conflits en France.
Mais l'Ukraine.
Non, mais excuse-moi.
La vraie différence,
c'est à nos portes. C'est pas là quand même, quoi.
L'Ukraine, c'est
l'Europe.
Jean-Baptiste.
Ça a des conséquences aussi.
Attends, Jean-Baptiste.
L'Ukraine, c'est le continent européen.
Le terrorisme, on l'hérite d'où?
Attends, Jean-Baptiste.
L'Ukraine, c'est le continent européen. Toute une partie. T'as une classe politique ukrainienne qui était tournée vers l'Europe, qui demande son adhésion à l'Union européenne. T'as une partie qui est très pro-Europe. Et t'as effectivement une partie à l'Est qui est plutôt russophone, tournée vers la Russie. Enfin, on parle pas de la Russie. La Russie est pas pro-européenne. Il n'y a pas la proximité ni géographique, ni culturelle, ni politique qu'on a avec les Ukrainiens. Enfin, il faut aller en Ukraine.
Non, mais puis,
on va conclure avec Sébastien. Et je remercie Gérald d'avoir été avec nous. Sébastien, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Sébastien. Alors, team oui ou team non pour l'emploi du terme de guerre?
Non.
Alors, expliquez-nous pourquoi.
Moi je trouve on a un gouvernement qui que ce soit avec le Covid et maintenant avec la crise énergétique, qui est uniquement sur des termes pour faire entre guillemets pour faire le buzz. Sauf que à côté de ça, on a un gouvernement qui est complètement schizophrène. Alors moi, je le vois, je suis taxi de profession. On nous impose de passer notamment à l'électrique parce que c'est la technologie de demain, et en même temps, on nous demande de baisser le chauffage d'un degré. Donc moi, il faut juste qu'on m'explique en baissant le chauffage d'un degré, et si tout le monde se met à charger sa bagnole la nuit, où est l'économie? Voilà. Donc, et c'est des contradictions surtout. On veut charger nos bagnoles, mais on a fermé des centrales nucléaires. On a la moitié de nos centrales qui tournent en France. Enfin, je veux dire, c'est tout et son contraire on dit blanc le lundi et voir le mercredi.
Alors Sébastien, réponse de Jean-Baptiste à ce qui est la critique de Sébastien.
En fait, il y a deux choses différentes. Il y a effectivement, on est dans un moment où on a objectivement besoin de sortir des énergies fossiles et donc d'électrifier pas mal d'activités, d'électrifier le chauffage, d'électrifier les véhicules. Et en même temps, on a une crise sur la production énergétique électrique dans notre pays. Et on en arrive à un paradoxe où c'est maintenant nous qui importons de l'électricité carbonée d'Allemagne et on exporte du gaz. Vraiment.
Le paradoxe, il peut nous pousser à payer plus cher notre batterie d'électricité qu'un plein de carburant. Ça va être compliqué.
C'est le paradoxe du moment.
Je suis novice. En fait, on fait quoi des batteries des voitures électriques après?
On les recycle.
On s'est recyclé aujourd'hui des batteries électriques.
Le problème, ça va être de les charger cet hiver quand même.
Ça, c'est vrai. Y compris la Californie aujourd'hui.
La Californie a. et qu'on va avoir nos chauffages en route, etc. Ben moi, il faut qu'on m'explique comment on fait.
Non, mais là, on est dans un moment exceptionnel où on a la moitié du parc nucléaire qui est à l'arrêt pour raison de maintenance ou autre. Et donc, dans un moment où à la fois on a tout le parc qui fonctionne et où on réinvestit dans le nucléaire, on est en capacité à la fois de chauffer les gens, de faire la transition vers le véhicule électrique.
Mais on est
dans un moment effectivement où c'est contradictoire.
On a aussi plein de freins dans le développement du solaire. Chaque fois qu'il y a une éolienne qui se monte, il y a un comité contre l'éolienne. Enfin, on est aussi très paradoxal sur le fait que si on était en guerre, on serait dans une économie de guerre et on mettrait en place.
On est en démocratie, Didier.
Non, mais on met en place.
Oui, mais tu vois,
on est en démocratie, Didier.
Tous les comités à la con qui vont se monter à chaque fois qu'il y aura une éolienne devant leur nez, et ben, si on est en guerre.
Il faut imposer les éoliennes partout.
Non, mais
je te pose la question.
Mais moi aussi, je me la pose la question. On est en guerre ou on n'est pas en guerre?
Oui, mais moi, je pense que
pour produire de l'électricité.
On est en démocratie, on veut que les gens.
C'est fini, merci beaucoup. Les Chinois ont monté la surface.
Merci, non, c'est fini. Merci, c'est fini, Kauter. Merci à Sébastien d'avoir été avec nous.
On a perdu le match.
On regarde, je pense qu'effectivement, la cause était entendue assez rapidement. Le président de la République a-t-il raison d'employer le terme de guerre à propos de la crise énergétique?
Je pense qu'il répond plus sur ses points contre Macron. Là,
ouais. Non à 83%.
Quelle excuse.
On va appeler Estelle Denis.
Pas compris la question.
La discussion va continuer sur RMC, RMC Story, ou plutôt le débat. Bonjour ma chère Estelle.
Tout à fait, comment ça va Alain?
Bien, alors que nous as-tu prévu?
On va voir si tu sais faire ça de tête. Non, mais on va parler de la grogne qui monte en Europe avec notamment des Italiens qui brûlent leurs factures d'électricité en pleine rue. La grève qui prend de l'ampleur en Angleterre. Est-ce que la révolte va gagner notre pays? Il y a des appels à la mobilisation qui sont lancés pour samedi. Appelez-nous bien sûr au 3216. On parlera du gouvernement qui veut lancer des cours de sensibilisation aux stéréotypes de genre à l'école. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et puis, les villes de Metz et de Strasbourg qui envisagent de limiter les illuminations pour les fêtes de fin d'année.
Ça commence.
Il faut se passer des décorations de Noël. Vaste débat, ce sera à 14h. On attend bien sûr vos réactions. Dites-nous si vous allez illuminer vos maisons, tiens, en cette fin d'année.
Pas de guirlandes.
On vous attend. Pas de guirlandes. J'espère qu'il y aura encore
la Noël. Je pense que la mère est
Noël en claquettes chaussettes et pas de guirlandes.
On en parle avec la claquette.
La mère écolo de Strasbourg n'aime pas le sapin, c'est l'arbre mort, mais n'aime pas Noël. N'aime pas la mère de
Bordeaux.
Vous savez qu'un jour on nous supprimera Maria Carré. Et ce jour-là,
on sera heureux.
Ah non, pas Maria Carré.
Rendez-vous demain, 9h midi, pour les GG, les grandes gueules, les amis. Nous serons avec Kevin Bossuet, Étienne Liebig et Sarah Salman. Demain, le trio de GG. Bonne émission avec Estelle. Et à demain, 9h.